Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Prions le Seigneur à nouveau. Te louons, Seigneur, pour cette belle occasion d'annoncer la bonne nouvelle, le message de l'Évangile. Nous croyons que ta parole est la vérité et nous croyons qu'elle est cette pluie bienfaisante qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Nous sommes convaincus que les cœurs ici présents, tu les disposes à recevoir ton conseil en nous donnant, en me donnant toute la liberté de l'esprit pour exposer simplement ta pensée, afin que, touchant le cœur de ces bien-aimés, et particulièrement de ceux qui sont éloignés de toi, eh bien, le miracle se produise, que le pardon leur soit accordé, que la réconciliation avec toi devienne effective, et que leur vie puisse s'épanouir à ta lumière. Nous croyons aussi que tu peux maintenant confirmer ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Tu es le Dieu Tout-Puissant, et c'est parce que nous avons confiance en toi et que nous croyons que ta parole est la vérité, que nous la proclamons avec joie, avec conviction et avec foi. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons de faire la lecture d'un texte très intéressant de la parole de Dieu. Ce matin, dans notre méditation, il était question de la signification d'un nom. Et là, la Bible nous dit que la scène se passe à Béthanie. Et nous ne pouvons pas ne pas relever le fait que Béthanie veut dire la maison de l'affligé. Et cette maison de l'affligé est comme un peu le type, le symbole de notre monde dans lequel il y a beaucoup d'afflictions, beaucoup de détresse, beaucoup de cœurs brisés. La Bible nous dit que la scène se passe à Béthanie chez Simon le lépreux. Alors certains s'autorisent à dire que si on l'appelle Simon le lépreux, c'est certainement qu'il avait été lépreux et qu'il avait été guéri. Rien ne nous empêche de penser comme cela, puisque nous savons que Dieu a fait des miracles extraordinaires, et même dans l'ancienne alliance, avant même que Jésus ne vienne révéler cette puissance extraordinaire et cette grâce venant du ciel, la grâce et la puissance de Dieu se manifestaient. Il y a des lois sur la purification des lépreux, et nous savons que Dieu se plaît à faire du bien à ses créatures, même lorsque celles-ci ne s'en rendent pas compte. Nous avons tous expérimenté la grâce de Dieu sans nous en rendre compte, échappé à un danger, nous sommes relevés d'une maladie de laquelle nous ne pouvions pas nous relever, d'un mauvais pas, et nous ne pouvons pas ne pas souligner cet après-midi la grâce infinie de notre Seigneur. Quoi qu'il en soit, ce Simon le lépreux avait besoin de la grâce de Dieu dans sa vie, parce que ce n'est pas parce que Dieu nous a accordé sa grâce, nous a guéri, nous a béni, a exaucé notre prière que cela est suffisant. Nous avons besoin d'expérimenter son salut. Et pour cela, nous devons l'inviter dans notre maison, et notre maison, c'est notre cœur, c'est notre âme. Nous voulons permettre au Seigneur d'entrer dans nos vies afin de nous apporter le pardon, la consolation et la paix. Ce que je remarque, c'est que dans cette maison est arrivée une femme, et cette femme a un peu bouleversé le cours de ce repas qui était organisé certainement en l'honneur de Jésus, puisque la Bible nous dit qu'il était invité chez Simon le lépreux, qu'il était à table. Elle est arrivée avec un vase d'albâtre rempli d'un parfum de nard de grand prix. Elle a brisé ce vase et elle a répandu ce parfum sur la tête du Seigneur. Et toute cette maison a été remplie de cette odeur, de ce parfum. Et quand certains ont vu cela, ils s'en sont indignés au point de dire « Mais à quoi ça sert? C'est du gâchis, on aurait pu vendre ce nard et en tirer 300 deniers. » Mais ce que je remarque et qui m'intéresse, c'est qu'en fait, cette femme a eu la foi. Et la foi, on peut se demander à quoi ça ressemble. C'est quoi la foi? La foi, c'est l'occasion qu'elle saisit pour s'approcher du Seigneur. Je m'explique. La Bible nous dit que cette femme est venue dans la maison de Simon le lépreux pendant que Jésus se trouvait à table. Et c'est un peu comme si le Seigneur nous disait, il y a des moments qu'il faut saisir, parce qu'il y a des moments où le Seigneur se trouve. Il y a des moments où il ne se trouve pas. Une dame est venue il y a des années à une réunion, et en sortant, elle a dit « Moi, je donnerai ma vie au Seigneur, mais quand je serai vieille. » Et puis, elle est rentrée, à l'époque, dans sa petite 4 chevaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petites 4 chevaux. Et quand elle a fermé la porte, elle a eu comme sa conscience qui la reprenait, comme une crainte qui a envahi son âme, et s'est dit « quand je serai vieille, mais je suis dans une boîte de sardines, il peut arriver n'importe quoi ». Et rien que cela a changé sa disposition de cœur, et là, dans sa 4 chevaux, elle a donné son cœur au Seigneur. La vie ne nous appartient pas, et les occasions nous sont données par le Seigneur, car, voyez-vous, pour venir à Dieu, on ne vient pas quand on veut, on vient quand lui veut. On ne se repent pas quand on veut, quand on le décide, mais quand lui l'a décidé. Vous allez me dire, mais un jour nous avons décidé. Oui, bien sûr, lorsque le Seigneur nous donne l'occasion et que nous saisissons cette occasion, alors le miracle se produit. C'est pour cette raison que la Bible nous rappelle, ne serait-ce que dans Ésaïe 55, le verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il y a des moments que nous devons savoir saisir. « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, et Hébreux 3:15 nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je crois que nous sommes aujourd'hui dans un moment favorable, dans un temps que Dieu nous accorde. Et quelqu'un l'a dit avec beaucoup de brio que aujourd'hui, maintenant, on a donné à maintenant, à aujourd'hui, un mot, un nom, le présent. Et cette personne disait le présent parce que c'est certainement un cadeau. Et je crois que c'est le cadeau que Dieu nous fait. Pourquoi ? Parce que l'avenir ne nous appartient pas. Le passé est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Mais le moment présent, Dieu nous l'accorde. Et nous devons saisir cette occasion comme cette femme. Et vous vous dites, c'est quoi la foi ? J'aimerais avoir la foi. Eh bien, la foi, c'est de saisir l'occasion que Dieu nous donne pour nous tourner vers lui. Je ne sais pas comment le Seigneur va s'y prendre. Je ne sais pas si le Seigneur va m'entendre. Je ne sais pas comment prier. Ne t'inquiète pas de toutes ces questions. Saisis l'occasion et laisse le Seigneur faire son œuvre, car il t'a donné rendez-vous pour se révéler à toi. Si j'avais su le jour de ma conversion que dans cette réunion où j'ai décidé d'aller, ma vie serait transformée, je n'aurais pas cru une chose possible, pareil, possible. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis de faire cette expérience un jour, et je ne regrette pas la grâce que le Seigneur m'a accordée. On se pose beaucoup de questions, mais le Seigneur a tout mis en place en amont, et c'est formidable quand on entre dans son plan. Cette femme a saisi la grâce au moment où elle lui était proposée, et aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion de saisir sa grâce et de faire avec lui une expérience vivante et réelle. Quelquefois, nous disons, on va avoir le temps, il faut que l'on prenne le temps de réfléchir. Attention, réfléchir n'est pas un crime, mais tarder devient un péché quand il s'agit de venir au Seigneur. Le Seigneur dit à ceux qui s'indignaient, « Les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et ce qui me marque dans ce texte, c'est que le geste de cette femme qui paraissait insensé à une grande partie des convives, a été retenu par le Seigneur au point qu'il dise au verset 9, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ça veut dire que ce que cette femme venait de faire était tellement important, que le Seigneur dit que tous les prédicateurs, tous les témoins dans le monde entier raconteront ce que cette femme a fait. Alors à partir de là, je me suis posé la question, si c'est aussi important, quelle en est la raison ? Qu'y a-t-il dans ce geste qui peut me parler ? Y a-t-il un message que je peux saisir ? Et je crois que cette femme, en entrant dans cette maison et en rompant ce vase d'albâtre, a voulu exprimer quelque chose. Parce que ce geste, c'est l'expression d'un sentiment intérieur. Elle exprime ce qu'elle vit. Elle exprime l'état dans lequel elle se trouve. D'ailleurs, le verbe « rompre » qui est utilisé ici signifie « briser, écraser, mettre en morceaux ». C'est comme si la vie de cette femme était en morceaux. C'est comme si elle était éparpillée, brisée, irréparable. Cela m'amène à ce psaume 31, un psaume de David tellement important, et particulièrement le verset 12, quand le psalmiste dit « Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors, s'enfuit loin de moi. Je suis oublié des cœurs, comme un mort, je suis comme un vase brisé. » Voilà le psalmiste qui a ce sentiment intérieur de brisement. David a connu le brisement et il a la possibilité, parce qu'il a une facilité, et là en particulier inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ce texte qui est un texte de la parole de Dieu, il a la possibilité de verbaliser ce qu'il ressent. C'est important, quand quelque chose est cassé en nous, de pouvoir le verbaliser, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir peut-être l'écrire. Vous savez, quand on est dépassé par les circonstances, on ne sait pas exactement comment exprimer ce qui se passe dans notre cœur, alors ça peut se traduire par toutes sortes d'expressions, par toutes sortes de moyens d'expression. Je ne peux pas les approuver, car sous prétexte de frustration, certains sont prêts à exprimer leur colère, leur rage, leur indignation, en faisant des actes, en accomplissant des actes destructeurs que nous ne pouvons pas approuver, certes, mais le besoin d'exprimer quelque chose est indispensable. Et David, lui, sait mettre des mots, et les mots qu'il met pour exprimer ce qui se passe dans son cœur l'aide à justement comprendre la situation, et non seulement la comprendre pour lui, mais nous aider à la comprendre. Car lorsque nous lisons ce texte, lorsque nous lisons ces paroles, nous pouvons nous identifier à ce psalmiste. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Peut-être quelqu'un ici est en train de se dire, mais c'est justement mon cas. Malgré les apparences, peut-être que tu arbores de radieux sourires autour de toi parce que tu veux montrer ta force, tu ne veux inquiéter personne, tu as beaucoup de pudeur, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose s'est cassé à un moment peut-être bien précis, quelque chose s'est brisé, tu es comme en miettes, en mille morceaux. Et là, certainement, alors que je t'en parle, tu est en train de dire, oui, c'est bien beau tout cela, je suis d'accord avec vous, pasteur, mais quel parfum peut-il sortir d'un cœur qui est brisé comme le mien? Quel est le parfum pour celui dont le cœur a été comme piétiné, malmené? Qu'est-ce qui peut sortir? Eh bien, c'est ce que le psalmiste décrit un peu plus loin. Il dit ceci: j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est extraordinaire quand on lit également dans ce chapitre 31, le verset 6, « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Voyez-vous, quand tout est brisé, quand tout est cassé, chers amis, il y a un parfum qui peut jaillir encore de nos vies brisées, c'est le parfum de la foi, de la confiance. Seigneur, je suis complètement en miettes, mais je remets mon esprit entre tes mains. Par moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Mais je sais une chose, c'est que tu as le pouvoir de tout changer dans notre vie. On a entendu le témoignage de notre sœur qui nous a fait beaucoup de bien. On pourrait entendre le témoignage de plusieurs cet après-midi. Merci Seigneur, parce que ta grâce est vraiment infinie. Et alors que nous étions perdus et que notre vie était malmenée, alors que nous étions brisés, sans espérance et sans Dieu, nous avons tourné les regards vers toi et nous avons remis notre esprit entre tes mains pour dire « Mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, je sais qu'avec toi tout peut changer. » Et j'ai cette infinie confiance dans mon Seigneur qui a le pouvoir d'accomplir ce miracle. Non, tout n'est pas perdu pour toi. La fatalité, n'y crois pas. Ne crois pas que tu es fatalement destiné à vivre avec ton malheur, avec ta détresse. Oh, certains disent, sommes nés sous une mauvaise étoile, ou alors... Il parle de la prédestination, certains sont nés pour souffrir, d'autres ont la chance de naître pour être heureux. Ne croyez pas en cela, croyez plutôt que le Seigneur change le mal en bien et qu'il a le pouvoir de faire en vous ce miracle. À lui soit toute la gloire. Ce brisement de ce vase est très important pour cela. Mais si je vais un peu plus loin dans le livre de Jérémie au chapitre 18, j'y vois là comme le constat d'un échec. Voyez-vous, dans le chapitre 18 de Jérémie, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je souligne ici le fait que, en fait, le fait de briser ce vase, c'était aussi l'expression d'un constat que sa vie était un échec. C'est difficile pour nous, hommes et femmes, de reconnaître nos échecs, de reconnaître qu'on s'est trompé. On a du mal à l'admettre et on cherche toutes sortes d'excuses. Mais le Seigneur va donner une leçon à l'homme de Dieu en lui montrant que le destin d'un vase qui ne réussit pas, c'est d'être repris en main par celui qui est en train de le fabriquer pour qu'il en refasse un autre. Et ça, c'est un message vraiment d'espoir, à savoir que en reconnaissant cet échec, nous pouvons nous en remettre à celui qui est le divin potier et lui permettre de nous façonner comme tout à nouveau pour nous donner les formes, la forme, et nous permettre d'être un vase qu'il a choisi pour une utilité bien précise entre ses mains. Car voyez-vous, quand Dieu nous a donné la vie, il avait déjà un plan pour chacun d'entre nous. Alors, ne passons pas à côté de cette occasion qui nous est donnée. Nous pouvons supposer pour cette jeune femme que le brisement et l'échec qu'elle avait connu était peut-être un échec sentimental. Je dis cela gratuitement, mais voyez-vous, les recherches faites montrent que les jeunes filles faisaient une provision de nard petit à petit, justement comme une dot pour le moment du mariage. Et on a l'impression qu'en brisant ce vase, c'était comme si ces illusions dans ce domaine-là étaient maintenant évaporées, comme si sa vie était brisée à ce niveau-là. Je le dis comme cela, gratuitement, mais il peut y avoir des situations qui nous ont amenés à connaître un brisement et on ne s'y attendait pas. Il est peut-être venu de personnes qui étaient proches, de personnes qui nous ont trahis, de personnes qui nous ont tourné le dos, de personnes qui nous ont fait du mal alors qu'elles devaient nous faire du bien. Nous en avons subi des assauts d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important, c'est que rien n'échappe au regard de notre Seigneur. Et le Seigneur nous montre que le vase qui n'a pas réussi, bien, le Seigneur dit, moi, je le reprends en main et je lui donne la possibilité d'être remonté, d'être fabriqué d'une autre manière. Pourtant, les apparences semblent être contraires. Voyez-vous, quand ceux qui ont contesté ont dit « on aurait dû vendre ce parfum, on en aurait tiré 300 deniers ». Mais vous imaginez 300 deniers ? Un denier était le salaire d'un ouvrier pour une journée. 300 deniers, c'est 300 jours de travail. J'imagine que ma femme me dise « achète-moi un parfum » qui vaut une année de salaire. Tu ne pourrais pas te contenter d'autre chose un peu plus modeste ? C'est-à-dire que ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il y avait vraiment de l'argent. Il y avait une forme de réussite. Mais comme souvent je l'ai dit, je le dis aussi ici, réussir dans la vie et réussir sa vie, ce n'est pas du tout la même chose. Et nous pouvons réussir dans la vie en étant malheureux comme les pierres. On peut réussir dans la vie et jamais être satisfait. Réussir sa vie, c'est entrer dans le plan de Dieu et lui permettre de faire de nous ses instruments de bénédiction pour la gloire de son nom. Je voulais également lire dans Romains au chapitre 9, le verset 21, simplement. « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » C'est un texte qui est un peu compliqué parce que, pour certains, on en arrive à penser qu'il y a des vases qui ont été confectionnés pour être une bénédiction, et puis il y en a d'autres qui ont été confectionnés pour être des vases de colère, comme si le Seigneur avait décidé à l'avance que les sauvés l'étaient avant et que les perdus, il l'avait décidé avant. Mais tout cela est faux, car voyez-vous, les vases de colère sont devenus des vases de perdition simplement parce qu'ils l'ont choisi. Nous sommes tous perdus. Nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Nous avons tous péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et chose extraordinaire, c'est que quand cette femme brise ce vase, elle exprime le fait que sa vie est un échec, que c'est une pécheresse, qu'elle a besoin du pardon de Dieu. Mais en brisant ce vase, elle manifeste un désir, ce désir de connaître la grâce, de connaître le pardon, de connaître le relèvement que Jésus est venu apporter aux pécheurs. Et je rends grâce au Seigneur cet après-midi, parce que je sais que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire a pour but d'accomplir ce miracle dans notre vie. Ce n'est pas Dieu qui choisit que vous deviendrez un vase de colère pour la perdition, mais c'est vous qui choisissez que vous deviendrez un vase de colère pour la perdition en refusant la grâce que le Seigneur vous offre. Lui vous propose de reprendre votre vie en main pour faire de vous pas seulement un vase et un vase d'un usage vil, mais de faire de vous un vase d'honneur dans sa maison et pour En arriver là, il faut se séparer du mal, du péché. Et la seule manière de se séparer du mal, du péché, c'est de le reconnaître, de se laisser convaincre et de venir aux pieds du Seigneur dans la repentance et dans la foi, en sachant qu'à la croix du calvaire, Jésus a tout accompli pour notre salut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me souviens que ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais perdu, mais que je méritais d'être perdu. Et dans ce moment, ne sachant pas comment exprimer ma prière, je savais que le jugement allait m'atteindre, je savais que j'allais aller en enfer, mais que c'était mérité. C'est ce que j'ai ressenti. Et alors que j'étais là dans la présence du Seigneur sans savoir vraiment quoi lui dire, j'arrivais pas vraiment à verbaliser ce que je ressentais. La seule chose que j'ai pu lui dire, c'est « Rapproche-moi de toi ». Je me souviens avoir commencé à pleurer dans ce moment. Ma vie était complètement brisée. Et plus je pleurais, et plus j'avais envie de pleurer, alors que j'avais honte, car il y avait d'autres jeunes dans cette réunion, et je ne voulais surtout pas qu'ils me voient pleurer, moi, pleurer. Non, c'est pas possible. Mais je ne pouvais pas me retenir. Et puis d'un seul coup, c'est comme si le fardeau était ôté de mon âme. C'est comme si le fossé qui me séparait d'avec Dieu était comblé, un mur venait de tomber, et une paix, une joie immense a inondé mon cœur. Mes larmes de tristesse se changeaient au fur et à mesure en des larmes de joie. Et je me souviens de ce moment où plus je pleurais et plus j'étais dans la joie, et plus j'étais dans la joie, plus j'avais envie de pleurer. Et quand je me suis relevé de ce moment, j'étais une nouvelle création. Je méritais d'être perdu. Mais le Seigneur a changé cette perdition en salut, en bénédiction. Et ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi, car il ne fait point exception de personne. Il nous aime tous de la même manière. Et puis, j'ajouterai une dernière chose. Lorsque ce vase a été brisé, que l'on a fait le reproche à Jésus, Jésus a dit, « Elle a embaumé mon corps pour la sépulture. » Et là, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis très longtemps en lisant ce texte, que en réfléchissant bien, sans rentrer dans les détails, mais l'albâtre, c'est blanc, et le nard pur, c'est rouge. Et quand ce vase a été brisé, là, au pied du Seigneur, avant que le parfum ne soit répandu sur sa tête, il y a eu comme une révélation que le Seigneur a vu dans ce geste, ce vase brisé et ce nard qui se répand. Lui, il était un vase parmi les vases, mais d'une blancheur exceptionnelle, puisque confronté comme nous et tenté comme nous pouvons l'être en toute chose, il n'a jamais succombé à la tentation. Il est venu parmi nous, il a pris notre place, mais comme l'albâtre, qui est un matériau dur, il a résisté au mal, il a résisté au péché, mais par amour pour nous, il a accepté d'être brisé. Et le sang de Jésus rouge a coulé de ses blessures à la croix du calvaire. Et quand le Seigneur voit ce que cette femme est en train de faire, il pense, je crois, à la croix, à ce qu'il est venu accomplir. Vous allez me dire, mais quel est le parfum qui peut se dégager du sang? C'est quand même pas un parfum agréable. Le sang de Jésus dégage le parfum du pardon, de la miséricorde, de la guérison, de la délivrance, de la communion rétablie avec le Père. Et aujourd'hui, alors que dans cette maison de Simon le lépreux, eh bien, le parfum s'était répandu et que tout le monde pouvait humer cette odeur, que nous puissions les uns et les autres sentir la bonne odeur de la grâce de Dieu et comprendre que le Seigneur, au milieu de nous, est venu pour répandre ce bon, ce doux parfum de la grâce qui nous permet d'expérimenter l'amour de Dieu d'une manière extraordinaire. Alors, je termine maintenant. Quand le Seigneur a vu les reproches qu'on lui faisait, ne lui faites pas de la peine, elle a fait ce qu'elle a pu. Le Seigneur reconnaît que ce qu'elle avait fait était grand, puisqu'il nous demande d'en parler. Mais pour les témoins qui étaient là, c'était du gaspillage, du gaspillage. Je me souviens, lorsque je me suis converti, il y avait pas mal de jeunes autour de moi, dans cette ville d'Aix-les-Bains où je suis né. Et je me souviens que ma vie avait changé et quelques jeunes étaient venus me voir. Et je les revois devant la maison. Ils me regardaient. Pauvre François. Gâcher une si belle jeunesse. C'est vrai que pour beaucoup, le fait de donner notre vie au Seigneur, d'accepter cette forme de brisement, devient comme du gaspillage. C'est du gaspillage. Moi, je voudrais vous dire que quand on donne notre vie au Seigneur, on ne gaspille rien du tout. Au contraire, le fait de remettre notre vie entre les mains du Seigneur nous assure sa bénédiction et sa grâce tous les jours de notre vie, car le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin ? D'un peu plus d'argent ? Peut-être que le Seigneur vous accorde d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Pas trop quand même, parce que c'est jamais très bon. Mais au moins, tout ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite le meilleur. Mais, voyez-vous, la plus grande des richesses, c'est d'avoir dans le cœur la certitude qu'il est celui qui nous guérit, celui qui répare nos vies, celui qui a pardonné nos péchés, celui qui a inscrit nos noms dans le livre de vie, celui qui nous prépare une place dans la gloire, celui qui sera à nos côtés dans les moments les plus compliqués de la vie. Et c'est pour cette raison que la plus belle des richesses, c'est de pouvoir dire « J'ai donné mon cœur au Seigneur. Je n'ai rien perdu en lui donnant, parce que lui, il sait quoi en faire. » Alors, je réitère ma prière et je dis « Seigneur, prends ma vie, et vous pouvez vous aussi le faire. On va prier le Seigneur ensemble. »